Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Mel. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci de m'avoir invitée.
Alors aujourd'hui, c'est un sujet un peu original, mais j'avais tellement hâte de le faire parce qu'en fait, tu es love coach et
C'est
tu
ça.
es spécialisée dans la dépendance affective pour les femmes.
C'est ça.
Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de femmes qui sont dans la dépendance affective que les hommes?
Alors ouais, déjà, c'est quelque chose dont souffrent plus les femmes que les hommes. Et ensuite, les femmes, elles arrivent plus souvent à se poser des questions et à se remettre en question que les hommes.
Alors, on va pas parler de dépendance affective, mais plutôt comment gérer sa relation de couple quand on est entrepreneur ou quand on n'est pas entrepreneur et voilà, quand on se met avec un entrepreneur, justement. Alors, malheureusement, ça va dans les choses inévitables, le divorce ou la séparation, qui touche énormément d'entrepreneurs. Je pense qu'on est dans les top one, surtout au début, en fait, de l'aventure entrepreneuriale. Parce que ça prend tellement de temps et pour le trois quarts des entrepreneurs, l'entreprise passe genre avant tout. C'est l'objectif numéro un. Donc, je ne sais pas quel avis tu as là-dessus, si tu es plutôt d'accord ou pas. Moi, c'est plutôt un ressenti d'entrepreneur. Hein.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, une fois, j'avais trouvé une statistique là-dessus, qu'il y avait un entrepreneur sur trois qui divorçait à cause de son entreprise, justement, et que c'était encore pire si jamais ils rencontraient leur partenaire après avoir lancé leur entreprise. Parce que, ouais, effectivement, ils sont tellement à fond dans leur entreprise, c'est leur petit bébé qu'ils veulent pas lâcher, et du coup, ça peut parfois être compliqué.
Encore pire, après avoir lancé, pourquoi?
Ben, parce que en fait, avant, je sais pas, j'ai l'impression que. Moi, j'ai pas eu d'explication là-dessus, hein. Mais j'ai l'impression que quand tu rencontres la personne avant qu'elle se lance, ben, elle est forcément. Enfin, elle est moins dedans, tu vois, donc tu as plus le temps de créer des vrais liens. Mais si la personne, elle a déjà sa boîte et que, tu vois, elle bosse, je sais pas, 80 heures semaine sur sa boîte et qu'elle est à fond, qu'elle veut la faire avancer, etc., et que là, elle rencontre quelqu'un. Bah forcément, elle a très très peu de temps à consacrer à cette nouvelle personne, donc je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour tisser des liens.
Parce que je me dis, au début, quand tu dois lancer une boîte, tu as tellement de choses à faire, tu dois mettre tout à jour vite, etc. J'avais plus l'impression que. En fait, je pense que c'est par stade. Genre, au début, ça peut marcher, et après, tu peux avoir un moment tellement de perdition que ça doit aussi être compliqué pour l'autre de gérer un moitié dépressif à côté, quoi. Non, mais c'est la
Ouais, non,
réalité.
mais je pense que ça dépend vraiment des personnes, ouais, parce que il y en a qui vont beaucoup bosser au début, avant le lancement ou pendant le lancement, et après, je sais pas, c'est une entreprise qui a besoin de moins d'investissement, ou alors, tu vois, des gens qui vont aller plus doucement au début et après se donner à fond. Je pense que ça dépend vraiment déjà des types de personnes et ensuite des types d'entreprises.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'il faut poser un cadre dès le début, être enfin, ne pas être dans le déni et dire à la personne, ouais, sache que je suis entrepreneur et ça me prend beaucoup de temps et c'est mon objectif numéro un.
Tout à fait. Surtout si l'entrepreneur il se met en couple avec quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, ben c'est, enfin le monde entrepreneurial c'est quand même un petit milieu avec ses propres codes et les gens qui sont salariés ils vont pas forcément connaître l'envers du décor. Donc ouais, c'est important dès le départ de préciser ça pour que ben après les deux soient sur la même longueur d'onde et que le nouveau ou la nouvelle partenaire sache à quoi s'attendre.
Ouais, c'est un peu une vision du futur. Comme il y en a, ils disent je veux des enfants, je veux me marier. Il y en a qui disent mon objectif dans la vie numéro un, c'est ma boîte et je veux la réussir. Ça prend du temps, de l'énergie. Soit tu acceptes, soit tu pars.
Ouais, ben c'est un peu ça. Après, il faut aussi que l'entrepreneur il soit conscient que pour construire un couple, il faut quand même s'investir un minimum. Mais oui, si l'entrepreneur a prévenu son nouveau partenaire dès le départ que par exemple, le week-end, il y avait une grande partie du week-end où il bossait, tu vois, son partenaire peut pas lui demander après de partir en week-end à chaque fois, quoi.
Ah, c'est ça, on ne peut pas se libérer facilement. Et
Ouais.
même, il y a des gens qui veulent tout le temps être sollicités par message toute la journée. En fait, tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le temps. En fait, tu dois te concentrer. Tu as des rendez-vous. Tu n'es pas... Tu réponds comme tu peux, en fait, avec le temps que tu peux consacrer. Et je sais que c'est difficile pour certains.
Ouais, exactement.
Donc, ouais, c'est peut-être aussi un peu de la dépendance, tu vois, ce besoin toujours de d'avoir ce lien et de péter un plomb parce qu'on répond pas.
Bah, de toute manière, c'est clair que même en dehors du milieu entrepreneurial, le fait de s'écrire des messages 24 heures sur 24, c'est pas très sain.
Ah non, c'est
Et
clair, ça.
ça peut vite devenir problématique dans une relation.
Faut pas sur-solliciter la personne, dans tous les cas.
Ouais, c'est ça.
Moi, je trouve que t'as plus rien à te raconter, tu vois.
Bah oui, c'est ça. Et même, enfin, il faut que c'est important dans un couple que chacun garde ses projets personnels, son travail, ses amis, et qu'ils continuent en fait à vivre chacun de leur côté, et pas que ce soit vraiment un couple fusionnel qui fait tout ensemble et qui se raconte tout à la minute où ça se passe. C'est pas sain, ça.
Ouais, les couples du 1 et 1 égale 1.
Non, ouais, non, ça marche pas.
Ça, c'est ils essayent, hein. Ils mettent de la conviction, mais c'est toxique. Et en plus, quand tu es
Ouais.
entrepreneur, tu as tes projets, etc., la personne, eh ben, tu peux pas l'inclure dans tes projets du tout, parce que c'est pas le deal. Et après, si tu la rentres dedans, ben, trois quarts du temps, il faut être franc, ça se passe pas bien. C'est
Ouais,
une catastrophe.
faut réfléchir à ça parce que c'est compliqué de travailler avec son ou sa conjointe, ouais.
Il y a aussi des phases quand tu es entrepreneur où tu passes des moments difficiles et faut être plutôt honnête avec la personne. Et comment on peut l'aborder sans avoir peur de se faire juger?
Non, déjà, moi, je dis toujours que la relation de couple, ça doit être l'endroit le plus sûr pour nous, où justement, on ne va pas avoir peur d'être jugé. Et ensuite, si déjà dès le départ, on a été clair avec la personne et qu'on lui a dit ben, qu'on était entrepreneur, que ça, qu'on consacrait beaucoup de temps à ça, etc., on sait qu'il y a toujours des hauts et des bas. Et quand il y a des bas aussi, il faut ouais, pas hésiter à être clair avec le partenaire, dire que c'est compliqué, que ça va pas, que on va avoir besoin de soutien, de présence.
Oui.
Et ouais, surtout, ben, enfin, communiquer surtout. Et que le partenaire soit bienveillant et patient. Je pense que patience est ouais, une bonne qualité pour être en couple avec un entrepreneur.
Ouais, c'est ça. Et même quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat et qu'on est déjà en couple, en fait, si le noyau familial n'est pas sain, c'est hyper toxique en fait pour se lancer, quoi. C'est même impensable. C'est soit c'est méchant, hein. Tu quittes la personne, tu te lances. Soit tu te lances pas en fait.
Ah oui, en plus de ça, ouais. Oui, c'est sûr, parce qu'il va y avoir des personnes qui auront peur, parce que ça leur paraît insurmontable ou que c'est quelque chose qui est réservé à très peu de monde, l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'il y a des personnes, par peur, en fait, ou pour protéger l'autre personne, elles vont dire, mais non, démarre pas ça, commence pas ça, ça va pas marcher. Ouais, c'est vrai que parfois, il faut faire des choix.
Oui, parce que si tu raisonnes plus avec la personne, faut y mettre un terme. Moi, je connais des gens qui étaient dans une relation, c'était salarié-salarié, et là, il s'est détaché du noyau de salarié, et il a décidé de... Ah, il n'est pas arrivé à transformer ça, mais il a décidé de changer de parcours et peut-être un jour se lancer dans le monde entrepreneurial. Et en fait, il s'est rendu compte à quel point il avait un décalage avec cette personne, et même après 10 ans, il lui a dit non, mais laisse tomber, en fait, on va s'arrêter là.
Ouais, bah ça arrive souvent parce que c'est vrai que le monde entrepreneurial, ça, enfin, c'est quand même un peu une autre vision du monde et de l'économie et du travail. Et c'est vrai que ça peut créer des vrais fossés avec les partenaires qui sont ben, eux dans leur boîte et qui se voient faire toute une carrière dans leur métier. C'est quand même deux visions très différentes.
Ouais, parce que quand tu passes de 35 heures, tu peux aller en soirée, tu peux voyager deux fois par an tranquillement, des week-ends, des restos. Et quand tu dis à la personne, écoute, ça ne va plus être ça en fait. Tu es sûr que si elle ne te suit pas, le projet, il meurt dans l'œuf en fait. Tu n'as même pas le temps d'écrire sur une feuille A4, il n'existe plus.
Parce que oui, il y a plein de. Quand on veut lancer son entreprise, il y a plein de choses qui jouent. Et c'est vrai que comparé à un travail où on est salarié et on a un peu cette sécurité, on sait que c'est de telle heure à telle heure, le week-end, on va pas bosser. Le boulot, ça reste au boulot. Alors que quand tu montes une boîte, ben, l'aspect perso et professionnel se mélange un peu. Il y a plus de stress, souvent moins d'argent au début qui rentre. C'est vrai que c'est quand même un gros chamboulement dans une vie.
Ouais, c'est inévitable. Je connais des gens qui voulaient même pas se lancer dans le monde entrepreneurial alors qu'ils voulaient se lancer parce qu'ils commençaient un début de relation et ils me disaient, ouais, mais tu te rends compte, on ne pourra plus faire de sortie, etc. Donc ça fait que tu bases ta vie sur une relation. T'as même pas une boule de cristal pour dire si cette relation va marcher et durer. Donc tu repousses tes projets à cause d'une personne. Une personne que tu connais à peine en plus.
Bah, j'ai exactement la même vision que toi, hein. Je trouve que c'est dommage.
Ouais, parce que c'est soit ton projet en fait ne te transcendait pas assez pour avoir la conviction de le faire.
Ouais.
Et en fait, elle a été là heureusement pour. C'est comme si t'étais déjà pas convaincue dès le début et oh, elle est là, t'as une bonne excuse.
Ouais, ça peut être ça. Ou alors, avant d'en parler, les gens qui sont un peu dans la dépendance affective, je pense que ça peut être un problème pour eux, tu vois, parce que c'est des gens qui ont tellement besoin d'être avec quelqu'un, qui sont capables de lâcher toute une partie de leur vie pour ça. Donc, ça peut aussi être un des facteurs.
Ouais, dans la dépendance affective. Ouais, parce que
Ouais.
tu vis pas ta vie en fait.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est peux changer tous tes rêves pour une personne. C'est bien, c'est cool, mais je pars du principe que, par exemple, tu vois, si tu es entrepreneur, ta boîte, elle marche pas plus que ça, elle est en train de mourir, et toi, tu es essoufflé psychologiquement, et ta nana, elle te dit, ouais, j'ai une opportunité au Canada. Moi, je suis d'accord que quand tu arrives au seuil, au palier où t'en dors plus de la nuit et ta boîte te rend cinglée, mais tu as essayé, là, tu peux dire, j'ai fait. J'ai essayé, elle m'a laissé essayer, ça n'a pas marché, je peux arrêter et la suivre, par exemple.
Ouais, on est d'accord.
Ça,
On
c'est
est sûrement
OK.
d'accord. Ouais.
On peut faire 50-50 dans la vie aussi.
Oui, tout à fait. Bah, de toute façon, un couple, c'est des compromis, hein. Et même pour les entrepreneurs, ok, la boîte passe avant tout, mais il y a un moment, si on veut construire une vraie relation, il faut quand même faire des compromis. Mais
Oui.
c'est sûr que abandonner des projets entiers pour une personne, c'est dommage, ouais.
Et après, le problème, c'est que à un certain stade, faut être franc, la magie, elle descend. Et je pense que tu as commencé à avoir des regrets, te dire, oh, si j'avais su. Tu vois, tu penses toujours à ça, à ce projet dans ta petite tête, dans un petit coin. Et je pense que tu peux un peu être désobligeant et dire à la personne, ouais, c'est un peu de ta faute, etc. J'ai un travail de merde, je suis pas épanouie. Tu vois, il y en a. Je pense qu'il y a une. On peut décharger ça sur la personne en mode faire culpabiliser.
Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi je dis enfin, qu'il faut jamais abandonner ses rêves ou des projets hyper importants ou qui nous font vibrer pour une autre personne, parce que c'est sûr qu'un jour c'est quelque chose qu'on va reprocher à l'autre, alors qu'en fait c'est nous qui avons pris la décision d'abandonner.
Ah voilà, elle n'a pas mis un fusil sur la tempe.
Ouais, voilà, c'est ça.
Je sais pas si toi, tu rencontres des gens dans le même questionnement.
En coaching, tu veux dire, ou
Ouais,
des...
coaching ou même des entrepreneurs, je sais pas si ça existe, qui se posent les mêmes questions, qui ont des doutes sur le fait de. Sur leur relation.
Écoute, moi, j'ai encore jamais coaché d'entrepreneur.
Ouais.
Et après, j'ai d'autres amis entrepreneurs qui eux, sont conscients de tout ce qu'on est en train de raconter là. Mais donc, j'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui était entrepreneur et qui avait un problème dans son couple à cause, entre guillemets, de son entreprise.
Parce que je regarde des fois des conférences, etc. Et ils parlent voilà, des sujets d'entrepreneurs. Voilà. Et ils parlent du couple dans des couples dans ce métier-là.
Ouais.
Et ils disent que si t'es, voilà, si t'es pas heureux, le problème en couple, c'est que tu as eu un problème, une dispute, tu ramènes ça au travail. En fait, tu n'arrives pas à dissocier. C'est un métier tellement compliqué que tu n'arrives pas à tu vois, laisser les problèmes devant la porte. Comme on
Donc
conseille.
là, tu parles du cas où il y a les deux qui bossent ensemble
Non,
ou
non,
vraiment
non,
un
non.
entrepreneur? Ok.
L'entrepreneur, il se prend la tête, etc. avec sa meuf.
Ouais.
Voilà. Ben après, revenir au travail et arriver à dissocier, j'ai l'impression que c'est compliqué tellement qu'on n'arrive pas à faire la part des choses.
Ouais, je suis d'accord. C'est aussi ce qu'on disait au début, que quand tu es entrepreneur et que tu commences, c'est dur vraiment de mettre des frontières entre ta vie personnelle avec ton couple, la famille, les amis, et ta vie au boulot, quoi. Parce que tu penses boulot, tu manges boulot, tu as toujours des idées pour ta boîte, qu'il soit 8h du mat, 10h du mat ou minuit. Et donc, c'est vrai que ça peut. Du coup, quand tu as des problèmes ben, familiaux ou relationnels, c'est vrai que ça peut être compliqué de vraiment couper le lien émotionnel quand tu commences à bosser sur ton entreprise.
On va dire, par exemple, je suis à fond dans ma boîte, je vois que mon couple est en train de dérailler. Qu'est-ce que je peux faire pour sauver le peu de meubles à sauver? Pour que ma relation perdure?
Ouais, ben déjà, il faut se demander pourquoi, enfin, quelle est la cause vraiment des problèmes dans le couple. Ok, c'est peut-être l'entreprise, mais ça peut être que l'entrepreneur a un peu délaissé son ou sa partenaire, qu'ils passent peut-être pas assez de temps de qualité ensemble, qu'ils ont peut-être plus la même vision du couple ou de l'avenir, tu vois, ou des projets en commun. Ça peut être vraiment plein, plein de choses. Donc, la première des actions à mettre en place, c'est de communiquer avec son ou sa partenaire. Pour savoir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui ne plaît pas à l'autre, et qu'on, à deux, essayer de trouver une solution pour que ça remarche, si c'est possible. Mais si après les deux personnes dans le couple, elles ont bah, chacune évolué et qu'elles ont plus la même vision du couple, de la famille, si elles ont plus de projets en commun, c'est vrai que là, ça devient un peu plus compliqué.
Ouais, faut se poser les bonnes questions, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Mais limite avoir un temps, en fait, essayer d'avoir un moment peut-être pour être en couple et partager des choses.
Ouais, ça c'est quelque chose que je conseille enfin, pour les couples où il y en a un qui est beaucoup occupé, c'est toujours de garder du temps pour le couple justement. Et s'il y en a un qui a un emploi du temps hyper surchargé, ben, faut pas hésiter à prendre rendez-vous
Ouais.
avec son ou sa partenaire pour être sûr justement de continuer à partager du temps et des moments ensemble et de se créer des souvenirs.
Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment, tu dois prendre rendez-vous. Enfin, c'est un cas, voilà, que j'ai déjà vécu. Tu dois dire, alors si on se voit, par contre, ces stores-là, on peut essayer de faire un truc freestyle, mais ça va être compliqué, en fait. Ça va me stresser, je ne vais pas arriver à gérer. Donc, tu vas toujours
Ouais.
être vraiment dans la planification. Comme moi, si tu prenais un rendez-vous professionnel avec je ne sais pas qui.
Ben ça dépend des. En fait, ça va dépendre de chaque personne. Tu vois, il y a des gens qui vont réussir à vraiment couper à n'importe quel moment avec leur travail. Mais s'il y en a qui sont à fond et qui culpabilisent dès qu'ils arrêtent de travailler et que. À chaque fois qu'ils n'ont pas de rendez-vous professionnel, ils se disent « Ok, je continue à avancer, je continue à bosser. » Il y a un moment, il n'y a pas le choix si la personne, elle veut passer du temps en couple.
Sinon, c'est rapidement à la perte et au divorce.
C'est ça.
Parce qu'en fait, même quand les gens qui lancent des startups, en fait, il y a plein de paliers dans une startup. Et c'est le palier avant, quand tu crées, c'est dur. Le palier quand ça commence à marcher et que ça devient n'importe quoi et que ça devient ingérable, c'est dur. Le
Ouais.
palier où tu dois chercher des fonds d'investissement et quand tu reçois l'argent, en fait, c'est un casse-tête. Je vous plains tous les gens. Je sais pas si on est les meilleures personnes avec qui être.
Pense qu'il y
Donc.
a tu vois, quand un entrepreneur il rencontre quelqu'un, s'il sait que cette personne elle peut ben, que ça peut fonctionner avec elle. Elle arrivera à se trouver du temps pour passer des moments avec.
Ouais, quitte à venir à 1h30 du matin et.
Par exemple, même si je
Non.
conseille quand même de passer la soirée ensemble avant,
Ouais,
mais bon,
c'est un
on
peu
fait comme on
extrême,
peut.
tu vois. Voilà. Je voulais parler justement du langage de l'amour, parce que
Ouais.
c'est un sujet que tu as parlé récemment.
Oui.
Est-ce que ça aide pas dans tous les couples, ce langage de l'amour, qui est, c'est quoi ces cinq langages? Bon, je me rappelle juste sur le mien, c'est tout.
Toi, t'es lequel?
Les bisous et les câlins.
Le
La tendresse.
physique.
Ouais.
Ouais. Ok. Ouais, donc, alors, je sais pas si tout le monde connaît les langages de l'amour, mais c'est Gary Chapman qui a développé ça, qui est un conseiller pour couple, et qui a dit que du coup, il y avait cinq façons d'aimer. Donc cinq langages de l'amour, et que chaque personne sur Terre avait son langage. Et donc, ces cinq langages, c'est les mots, les paroles valorisantes, tu vois, quand on fait des compliments à l'autre, les services rendus. Donc, par exemple, quand tu vas faire, je sais pas, à manger ou le ménage pour que l'autre ait pas besoin de le faire. Les cadeaux, le temps de qualité et le toucher, le physique. Et voilà. Et en fait, parfois, il y a des gens qui sont en couple et qui vont avoir l'impression que leur partenaire ne les aime pas, alors qu'en fait, c'est juste que leur partenaire, il leur montre qu'il les aime d'une autre manière. Par exemple, toi, c'est le toucher physique qui est important pour toi. Et c'est comme ça que tu montres que tu aimes quelqu'un. Et c'est comme ça que toi, tu aimes bien recevoir de l'amour. Mais si ton partenaire, lui, son langage de l'amour, c'est par exemple les services rendus. Et
Alors là,
que.
c'est atroce. Genre, oh, c'est bien, t'as fait la vaisselle. Merci.
Bah, c'est ça, en fait. Mais tu vois, il va. Je sais pas, il va s'occuper de la maison, il va te, je sais pas, quand si t'as besoin d'aller à la poste ou d'aller faire des courses et que t'as pas le temps, il va le faire pour toi.
Ouais, serviable à fond, quoi.
Voilà, c'est ça, il va être serviable, mais que toi, c'est vraiment le physique, ton premier langage de l'amour, tu vas avoir l'impression qu'il t'aime pas, alors que c'est juste que lui, il va te le montrer d'une autre manière.
Et ça se voit ou ça se demande direct?
Ben, les deux, hein. En fait, souvent, tu peux, ce que tu reproches à l'autre de pas faire, ça va être ton langage de l'amour. Tu vois, si tu lui dis oh, tu m'offres jamais de cadeaux, oh, tu passes jamais du temps avec moi, ça donne des indications sur ce que toi, tu as besoin et que tu veux. Et après, ouais, pas hésiter à en parler et à demander à son partenaire ben, comment est-ce que tu aimes en fait? C'est quoi ta manière d'aimer?
Ouais. Ouais, je pense que ça se voit quand même rapidement. Mais il faut les connaître.
Oui, il faut les connaître. Et bah d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je sais qu'on peut faire le test en ligne sur Internet
Ah ouais.
des cinq langages de l'amour pour savoir quel est notre langage. Et moi, j'encourage à chaque fois tous mes coachés à faire le test pour eux-mêmes et à demander à leur partenaire de le faire aussi. Parce que ça permet souvent de se rendre compte qu'en fait, l'autre, il nous aime aussi et que nous, on aime et c'est juste qu'on est différents.
Ouais. Je trouve que c'est. Il y a toujours des gens qui reprochent plein de choses par rapport à ça. Et en fait, quand j'ai lu le langage de l'amour, ou quand, enfin voilà, quand on parlait, je me suis dit, ah ouais, révélation du siècle.
Ouais.
Oh! Genre, j'ai comme si j'avais appris un truc, mais incroyable, que je connaissais pas du tout. Et là, tu refais, tu vois, tu repenses à toutes tes relations et tu fais, ah ouais. Je comprends mieux maintenant pourquoi je pouvais lui reprocher ça ou il pouvait me reprocher ça. Mais ça reste, voilà, faut connaître après la spécificité du langage de l'amour pour arriver à faire la connexion.
Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que si on n'est pas du tout conscient que chacun a sa manière d'aimer, ben tu peux vite aller dans les reproches ou vite avoir l'impression que l'autre il s'en fout de toi, alors que non, c'est juste qu'il te le montre d'une autre manière.
Ouais, voilà, c'est pas besoin de dire je t'aime en fait pour aimer quelqu'un.
Ouais, tout à fait. Comme tu vois, toi, le toucher c'est important pour toi, mais il y a des gens qui n'ont pas besoin de se toucher en fait pour aimer et pour aimer l'autre.
Oui, bah, tout à fait. Mais le problème, c'est que si l'autre personne, enfin, si t'es beaucoup demandeuse de, enfin, si t'aimes ça, de voilà, des câlins, et que la personne, elle aime pas du tout ça, c'est compliqué à gérer.
Bah, c'est vrai que si c'est deux opposés, ça va être compliqué parce que, en plus, surtout tu vois, l'aspect physique et toucher, c'est quand même important dans un couple. Mais le fait de rien que de prendre conscience en fait, de son langage et du langage de l'autre, déjà, tu arrives plus à te dire, ah, ok, bon, ben, il ne me fait pas 20 000 câlins par jour, mais par contre, il me dit des mots gentils, il m'offre des cadeaux, donc il m'aime quand même. Tu vois, ça permet de prendre du recul un peu. Et après, quand lui, il est au courant que toi, le physique, c'est important, bah, il sait que tu vois, il peut t'apporter plus de câlins et de bisous qu'il le ferait s'il n'était pas au courant. Mais on est d'accord que s'il y en a un qui déteste le toucher physique et que l'autre, il adore,
Là,
compliqué.
on va dire que c'est la base n'est pas solide.
Je sais pas la base, mais en tout cas, ouais, pour développer quelque chose sur le long terme. Ça va être compliqué parce que s'il y en a un qui a vraiment besoin et que l'autre il déteste, tu vois,
Ouais.
c'est toujours. les attentes et les désirs de l'un qui peuvent absolument pas être comblés par l'autre, ben ça va pas marcher quoi.
Qu'est-ce que on pourrait conseiller d'autre aux personnes pour même gérer bien son couple de base, hein, parce que ok, être entrepreneur, le taux de divorce on le pète, donc ça fait que énormément d'entrepreneurs ne sont plus dans le projet, tu vois, de se marier, parce que de toute façon, ça coûte trop cher un divorce. De toute façon, le mariage de base, ça coûte cher, autant faire un tour du monde. Mais c'est la vérité. Un mariage, c'est 10 000 euros en moyenne. Franchement, hors problème coronavirus, tu prends tes 10 000 euros et tu fais 6 mois à l'étranger. Enfin, moi, je trouve, c'est que mon avis personnel, je ne sais pas si c'est un bon avis, mais le pack, ça coûte moins cher. Si vous voulez vraiment vous unir, franchement, un pack, ça se déchire. Et en plus, le problème, c'est quand tu es auto-entrepreneur ou entrepreneur, tu as une start-up, etc., t'as pas envie de finir comme Jeff Bezos à divorcer. Je suis désolée, hein, mais tu divorces et ta femme devient la nana la plus bankable d'Amérique. Mais après, je me suis dit, mais elle l'a soutenue, en fait, pendant 20 ans.
C'est vrai aussi, ouais.
Elle était là dans la galère, etc. Et si ça se trouve, s'il n'avait pas eu ce soutien moral, etc., enfin, sa présence, et je pense qu'elle a dû passer des phases difficiles où, voilà, on dit que l'écart type de l'entrepreneur, c'est de la dépression et, de l'euphorie. Enfin, je me dis, peut-être que ça vaut, en fait, tout cet argent.
Je sais pas, après, ça reste de l'argent.
Oui, mais bon, elle a fait comme... Enfin, ouais, ça reste de l'argent, voilà, mais on peut pas pleurer qu'elle ait eu une somme conséquente, je veux dire. Parce qu'on est d'accord que la pression sociale n'aide pas, quand on a 30 ans, on est une femme, on veut se lancer, et comparé aux autres qui disent « Non, mais tu sais, faut que tu te maries, faut que tu aies des enfants. »
Oh là là, on parle pas.
C'est important, tu vois, à 30 ans, tu vas pas ouvrir ta boîte, quand même.
Non, mais le nombre, franchement, le nombre de mes coachées femmes qui sont célibataires et qui le vivent mal, à cause juste de la pression sociale. Et il y en a, elles sont jeunes. Hein. Mm-hmm. Elles ont 23-25 ans et elles sont déjà mal parce qu'elles se disent « Oh là là, mon Dieu, mais j'approche les 25 ans. Il faudrait déjà que j'ai trouvé mon futur mari. » Enfin, oh, mais des conneries.
Ah ouais.
De quoi ?
Ça leur bouffe le cerveau.
Ah, mais c'est ça. Hein. Mais c'est vrai que ça existe vraiment, cette pression de la société et même des amis. Parce que parfois... la société en soi, elle vient pas te voir tous les jours pour se moquer de toi si t'es pas mariée, tu vois.
Oui.
Mais par contre, les amis ou la famille, ah ben, t'es encore célibataire. Ah ben, c'est pour quand le mariage. Ah ben, c'est pour quand le bébé. En fait, arrêtez, en fait. Enfin, ça viendra quand les deux partenaires, ils ont envie de le faire et vous n'avez pas à vous mêler, quoi.
Non, mais c'est ça. Et en plus, quand t'es une femme, être entrepreneur, c'est méga compliqué parce qu'il y a quand même toujours les gars qui ne croient pas vraiment en toi, qui t'écoutent pas, qui te coupent. L'argent, excusez-moi, mais c'est plus difficile d'avoir de l'argent quand t'es une femme par rapport aux investisseurs et tout. Et t'as beaucoup moins d'argent que les hommes. Et en plus, si t'as 30 ans, t'as envie de réaliser un rêve de fou et que t'as pas d'enfant, je trouve que les gens, ils te jugent encore.
Ouais, plus. T'es jugé, c'est ça.
En mode, tu vas pas te lancer là-dedans alors qu'à là, l'heure qu'il est là, tu devrais déjà avoir un mec et deux enfants.
C'est exactement ça.
C'est quoi la meilleure chose à faire? C'est on s'en fout de la société, on s'en fout des gens qui vous jugent à Noël bourrés autour de leur la réunion familiale qu'on a une fois tous les trois siècles.
C'est sûr. Mais c'est ça, en fait. Il faut juste... Si les gens ont vraiment des projets qui les font vibrer, mais il faut y aller, en fait. On s'en fiche. C'est, en fait, cette pression de la société et tout, ça nous fait croire que il faut se marier jeune, avoir des enfants, avoir une maison, un chien, nanana, et c'est comme ça que ta vie elle est réussie. Mais c'est pas vrai, en fait. Ta vie elle est réussie si t'as suivi ton cœur et que t'as suivi tes projets et que tu t'es battu pour ce que tu voulais. Et ouais, c'est comme ça que tu seras heureux, en fait. C'est pas avec un mari et des enfants que tu seras heureuse. Enfin oui, mais je veux dire, si t'es pas heureuse de base, c'est pas eux qui vont t'apporter ce bonheur.
La dépendance affective, bonsoir. Voilà. On y revient à chaque fois, en fait. C'est vrai.
Et oui.
En fait, j'ai l'impression, est-ce qu'on est dépendant affectif ou est-ce que la société ne nous rend pas dépendant affectif, tu vois, parce qu'on a tellement un manque de confiance en soi et un estime tellement basse de nous, plus la société et ta famille, même quand tu recherches un emploi, j'ai l'impression qu'ils creusent encore, tu vois, cette dépendance affective.
Ouais, oui, ça joue son rôle, hein. Même l'éducation des parents, tu vois, il y a...
Les blessures.
Ouais, exactement, les blessures d'enfance. Et Tu vois, par exemple, moi, j'étais dépendante affective avant, et pourtant, mes parents, ils ont toujours été là pour moi. Mais par contre, depuis que je suis petite, ils m'ont appris, ben, sois gentille, tais-toi, réponds pas aux gens, tu rends des services, il faut aider les autres. Tu vois, un peu cette notion de genre se sacrifier pour les autres.
Ouais.
Et ça partait d'un bon sentiment. Ils voulaient juste faire de moi quelqu'un de, je sais pas, de gentil, de poli, de serviable. Mais en fait, quand t'as tes parents et après qu'à l'école, les maîtresses et tout, et on te dit non, tais-toi, parle pas, tu dois pas dire ce que tu penses.
Ouais,
Enfin,
t'es
tu vois,
une...
tout ça contribue à développer cette dépendance après.
Mais la dépendance affective, c'est pas la peur de l'abandon. C'est pas ça. C'est
Ouais,
pas
c'est
l'amour.
ça. C'est par rapport à ça, ouais.
Attends, il y a quoi? Attends, on va les répéter les blessures. Moi, je bug tout le temps.
Il y a la blessure d'abandon.
Vas-y.
De re... ouais
Rejet.
pardon
Rejet,
ouais rejet,
injustice.
injustice,
Le truc du
trahison,
Ouais, le truc du masochiste, là, comment ça s'appelle?
humiliation.
Humiliation, voilà.
Ouais,
Non, bah, tu sais quoi, je vais faire une aparté. En fait, les cinq blessures, c'est... En fait, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça trop clivant. Mais c'est Louise Bourbon qui les a fait dans un livre. Bon, il faut être dans un level de développement personnel assez élevé parce que c'est mi-OK, mi-barré. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est que... Non, mais c'est vrai, l'histoire.
ouais.
Quand tu lis les deux premières pages... Franchement, vous allez à la Fnac, vous lisez deux premières pages, ça vous parle pas, vous laissez tomber. Parce qu'en fait, c'est autant... voilà, vous arrivez sur Terre avec vos âmes... Non, avant d'arriver sur Terre, vos âmes et vos... Je sais, c'est quoi là, qui dit? En fait, vous réincarnez dans une famille dans laquelle vous, votre vie, voilà, vous fera guérir d'une vieille blessure. Donc déjà,
Ouais.
c'est hyper barré, genre, si tu crois pas... Si tu crois pas au fait que c'était très scientifique, très cartésien, tu passes le livre,
Ouais.
direct, ça te parle pas. Au contraire, je pense que tu le brûles. Enfin, faut déjà croire aux âmes qui te font naître dans une famille. Moi, j'y crois quand même un peu, tu vois. Genre,
Ouais, moi aussi.
je suis un peu dans le concept, on te fout là et on te dit, tu sais quoi, démerde-toi. Ouh!
J'ai le passage sous les yeux si tu veux que je lise
Vas-y.
la première page. Donc ouais, le premier chapitre du livre, le premier paragraphe, ça dit. Lorsqu'un enfant naît, il sait au plus profond de lui que la raison pour laquelle il s'incarne, c'est d'être lui-même tout en vivant de multiples expériences. Son âme a d'ailleurs choisi la famille et l'environnement dans lesquels il naît avec un but très précis. Nous avons tous la même mission en venant sur cette planète, celle de vivre des expériences jusqu'à ce que nous arrivions à les accepter et à nous aimer à travers elles. Donc effectivement, si t'es pas prêt, tu lis ça, tu dis... Même moi, je t'avoue, hein, au début, quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est pas un des premiers livres de dev perso que j'ai lu, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle raconte?
Ça fait un peu science-fiction, tu vois.
Ouais, au début, ouais.
Et en fait, on dit qu'on se réincarne plus quand on a compris. Et en fait, quand on a compris, c'est quand on a guéri toutes nos
Ouais.
blessures. En fait, c'est ouais, la dépendance affective, c'est un syndrome qui bouffe les personnes. Et comme je voulais dire, ouais, que la société n'aide pas les gens à passer au-dessus, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit à la société de se calmer direct? On envoie un message.
Ben, en fait, il faudrait aller voir tous les parents en devenir et leur expliquer tout ça.
Va leur faire une fiche technique.
Ouais, c'est ça, parce que ça part de là, tu vois. La société, de toute façon, c'est très clair que nous, on va rien changer, non. À
Ben,
moins de
oh.
devenir multimilliardaire ou président. Mais par
Ouais,
contre,
mais
ce qui
t'as
peut
le
changer,
lobbying du mariage et des églises après qui vont venir te soudoyer pour pas le
c'est
dire.
vrai. C'est vrai aussi. Non, c'est vrai. Non, mais tu vois. Mais par contre, ben, chacun, à son échelle, peut faire changer les choses. Et si tu expliques à tes enfants que c'est toujours important de suivre ses rêves et ses projets, tout en étant, bien sûr, dans la bienveillance et dans le respect des autres, mais ça changera déjà beaucoup de choses, hein.
Mais est-ce qu'on ne vit pas encore dans le paradigme de nos parents? Est-ce qu'on ne vit pas encore ça et on transpose à notre vie alors qu'en fait, on a pu, pour moi, on n'a plus les mêmes cartes en main. En fait, on cherche vraiment autre chose. Mais j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, on transpose et on reprend ce schéma. Et on ne le remet pas en question. Je pense que c'est un des schémas qu'on ne remet pas du tout en question.
De quel schéma tu parles exactement?
D'être en couple, de s'aimer éternellement, d'avoir un labrador et une petite maison à côté de la forêt, tu vois.
Oui, bah oui, je suis entièrement d'accord. Enfin, je trouve que ça commence quand même un peu à bouger avec notre génération. Mais c'est vrai qu'il y a, oui, il y a encore énormément de gens qui sont encore là-dedans, quoi.
Mais c'est
Moi,
pas
t'avais.
plutôt les...
Non, vas-y, vas-y.
C'est pas plutôt les gens des villes qui changent ça?
Ouais, plus. Plus, ouais.
Pense pas qu'on puisse trop être en décalage avec la personne avec qui on est.
Tu veux dire si il y en a une qui est là, CDI 35 heures à vie,
Ouais.
et Claude.
Si, c'est
Ben.
possible. Mais genre, il y en a une qui veut vivre à la campagne, l'autre, elle veut vivre en ville absolument. C'est soit il y en a une, c'est concession, soit ça s'arrête.
Ah oui, voilà, bah ça de toute manière. Hein. Bah ça fait partie entrepreneur ou pas. Hein. Si les
Ouais.
gens ils ont pas la même vision commune pour l'avenir et la même idée qu'ils ont pour leur vie future, ouais, ça va être compliqué. Hein. C'est comme ce que tu disais avant, s'il y en a un qui a envie de se poser, d'acheter une maison et de faire des enfants et d'acheter des chiens, et que l'autre il a envie de faire le tour du monde pendant 5 ans, ça va aussi être compliqué, quoi.
Mais il y a des gens qui passent les sujets hyper importants, tu vois, genre avoir des enfants. Il y en a, ils occultent ça.
Ah oui, complètement.
Et au bout de 10 ans, ça casse,
Ouais.
etc. Mais tu vois, ce qui est chiant, c'est que tant mieux pour certains, hein, franchement, mais je le dis assez facilement. Comme ça, je me dis, vas-y, c'est fait. Et en fait, il y a des gens, ils m'ont déjà regardé, ils m'ont dit, bah non, en fait, ça peut être possible parce que tu veux pas d'enfant. Et toi, t'es en mode. Bon, c'est pas grave. Mais
Bah c'est ça.
t'es quand même dégoûté quand même en mode ah bah tu me juges là-dessus, mais si ça se trouve dans une semaine, je pourrais même plus te supporter en fait.
Non, moi je trouve que c'est bien, tu vois, parce que dès le départ, en fait, toi, tu as annoncé la couleur et l'autre personne, elle a annoncé ce qu'elle voulait, elle. Et c'est vrai que si c'est pas raccord, tu vois, pourquoi commencer, tu vois, sur des choses aussi importantes.
Ouais. C'est parce que pour moi, c'est tellement insignifiant, tu vois, que je me dis mais on s'en fout, vas-y, on teste. Et je pense que la personne, elle est en mode. Non mais et si on n'a pas les mêmes projets, donc c'est nul en fait.
Ouais, c'est ça. Parce que pour toi, ça n'a pas d'importance, mais il y a des gens, c'est vraiment un de leur but ou un de leurs rêves, tu vois, d'avoir des
Ouais.
enfants.
Ouais, je
Et vaut mieux que la personne, elle te dise non direct, comme ça, vous perdez pas votre temps.
sais. Ouais, c'est un délire, hein, des gens qui me font ouais, mon rêve, c'est d'avoir des enfants et toi, t'es là en mode moi, mon rêve, c'est d'être riche, en fait. Excusez-moi. Et je sais que au prorata, un enfant, c'est un gouffre, tu vois, donc je partais avant de zéro, là je pars de moins 80 000, ça va pas, tu sais. L'écart il est trop énorme. Ah,
Bah,
comme tu me.
chacun a ses aspirations pour la vie.
Ouais, mais ouais. Et des fois tu te dis avec du recul, non mais en fait c'était très bien que ça s'arrête là en fait, next. Et en fait après, avec le temps et la persévérance, ou pas justement, juste en lançant dans l'univers, voilà, l'idée, comme on avait dit, la loi de l'attraction en mode idéalement je voudrais ça comme personne. Enfin, je sais pas si tu y crois, toi, à la loi de l'attraction.
Si, si, ouais.
Qu'est-ce que la loi de l'attraction? Là, on est très.
Alors, je vais te donner ma définition. Tu me dis si t'es OK pour toi.
Ouais,
C'est
vas-y.
vraiment le fait, en fait, de désirer quelque chose et, en gros, de le demander à l'univers et de le ressentir en soi. Tu vois, pas le demander comme si on avait un manque, mais le demander comme si on l'avait déjà en soi et ressentir toutes les émotions. Et que ben il y a l'univers, il va t'entendre et il va amener sur ton chemin ce que tu as demandé.
Mais
J'ai
ouais,
bien
non, mais c'est
défini.
ça. Pour moi, c'est ça. Et après,
Ouais.
l'ingrédient, c'est que déjà, il faut être méga aligné avec soi-même.
Ouais,
Donc, si on
ouais.
n'a pas d'amour, pas de respect pour soi, eh ben, ça marchera pas. Et en plus de ça, faut pas le nourrir de peur et de manque.
C'est ça.
Y a tellement de paramètres, tu vois, déjà à mettre en place.
Ouais.
Parce que, ouais, tout arrive parce que ça doit arriver. Ça arrive pas par hasard. Et si tu mets, ouais, la bonne impulsion et que tu lâches. Et après, la méthode la plus concrète, c'est de lâcher prise, en fait,
C'est
totalement.
ça.
Genre, tu lances l'idée et tu refais ta vie. Et tu
Ouais, c'est
continues
ça.
la vie.
Et tu laisses faire. Ouais, exactement.
Moi, je sais que quand je le lance, l'idée, je la lance pour le délire. Et quand ça m'arrive, je capte, genre, 15 jours après. Je fais, oh, mais c'est ce que j'avais demandé.
Ouais, souvent c'est ça. Après, il y a quelque chose, parce que j'ai lu pas mal de bouquins sur la loi de l'attraction, et souvent ils disent que il y a beaucoup de gens qui sont capables de demander ce qu'ils veulent, mais par contre, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de repérer le message retour, en
Ouais.
gros, ou les signes, tu vois, que l'univers nous envoie. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Enfin, c'est important d'être capable, en fait, d'identifier les signes.
Ouais, donc genre, ils passent à côté de demandes ou d'opportunités.
Ouais, c'est ça.
Mais tu crois pas que si on demande, ça vient et ça vient, quoi? Non, il y a encore des personnes qui tapent à côté, même quand ils l'ont. Est-ce que tu es d'accord sur la théorie que les couples durent 7 ans? Moi, je dis 3. Non,
Non, non. Non, il y a. Moi, je suis pas très fan de ça, là. L'amour dure 3 ans. Un mariage,
Ah, mais
ça dure
ça,
tant et tant d'années.
c'est des
Enfin.
gens qui racontent leur histoire, c'est tout. Moi, je suis sûre que c'est ça, tu vois.
Ouais, mais en fait, un couple, il dure tant que la vision, elle est commune et que les deux, ils mettent des efforts dans la relation. Et il n'y a pas de. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de couples, tu vois. Par exemple, pour cette histoire de l'amour dure 3 ans, il y a beaucoup de couples, en fait, quand ils approchent de leurs 3 ans d'anniversaire, ils sont là, oh là là, est-ce qu'on va réussir à passer le cap?
Grave, c'est cap de merde, faut être
Mais
franc.
ouais, oui, c'est ça. Ah, après, il y a le cap des 7 ans. Oh là là.
Non, pour moi, il y a deux caps qui sont réels. Les trois mois. En fait, pour moi, les trois premiers mois, c'est déjà tu te prends la tête avec la personne, que ça devient, c'est déjà un enfer. Et ben, tu sais que tu pars dans un truc qui va être chaud bouillant. Et enfin, je trouve que les 3 mois, c'est un bon truc.
Alors, je suis d'accord
Bon.
avec toi, mais moi, je le vois pas trop comme genre le cap d'un couple, mais plus la période d'essai, tu vois. C'est-à-dire où les
Voilà.
deux, elles vont apprendre à se découvrir, etc. Et soit ça marche, soit ça marche pas.
Oui, voilà. Si au bout
Ouais.
de 3 mois, la personne, elle s'est dit, ah non, mais en fait, je vais peut-être pas me mettre en couple, tu fais, ben, tu sais quoi, le deal de départ, ben, tu sais quoi, va te faire foutre. Non, mais je suis pas aussi, je suis gentille, hein, il n'y a pas de problème, mais ouais, y a des trucs, non.
Ouais.
Parce que, voilà, quand une relation, tu te prends la tête déjà tôt, au bout de trois mois,
Pas bon signe. Hein.
L'abandon, des fois, tu vois, la mort d'un couple, libère les deux personnes. Parce que si c'est pour perdre ton sourire quand tu vas au travail, c'est une catastrophe. T'as envie de chialer toutes les minutes. Ils t'envoient des textos, tu te prends la tête et tout. Et voilà, et quand tu te lances dans un projet où t'as une équipe à gérer, t'es CEO de ta boîte, tu donnes la motivation et l'impulsion à toute ton équipe et que tu mets un masque et derrière ce masque, tu es en train de pleurer. Ouais, il faut faire des concessions dans la vie.
Ouais, je suis entièrement d'accord.
Et il y a aussi, je sais pas, non mais pareil, la période des 6 mois, c'est les 3 mois la phase d'essai. Et j'ai l'impression qu'à 6 mois, tu as le truc du comme si la vitre elle se cassait et tu fais, ah ouais, la personne elle est comme ça en fait. Tout ce que je pensais, c'est retombé. Mais c'est parce que je suis pas la seule à le penser en fait, c'est pas un délire à moi-même, enfin qui est de moi. Mais ouais, beaucoup de personnes en parlent parce qu'ils disent que la phase lune de miel commence à perdre, tu vois, au bout de 6 mois, t'es plus dans l'idéalisation de la personne en mode ouais, elle ressemble exactement à tout ce que je voulais, cette personne elle est incroyable et c'est comme si l'illusion partait. Il y en a qui disent, ouais, c'est au bout d'un an, 1 an et demi. Mais ouais, c'est propre à chacun. C'est soit t'arrives, t'es vrai dès le début et la personne, elle arrête de se projeter en toi, que t'es l'homme de sa vie alors que ça fait une semaine que vous vous connaissez. Ou voilà, où il y a plein de personnes qui disent, je t'aime, oh là là, au bout d'une semaine. Hein. Mais ça,
Ouais.
ils peuvent s'aimer, tu vois, mais dépendance affective.
En fait, alors il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer. Je suis entièrement d'accord avec toi.
Oui.
Alors après, ouais, toute cette phase, genre période d'essai, lune de miel et tout, c'est juste, oui, la phase du début où c'est la séduction et vraiment la passion. Et là, tout est rose, tout est beau. Et en fait, déjà, je trouve ça dommage que les gens se mettent des filtres ou des masques, tu vois, pour plaire à l'autre. Parce que c'est pour ça qu'il y a des déceptions après, parce que les gens, au départ, ils vont avoir peur d'être jugés, avoir peur d'être rejetés, avoir peur d'être abandonnés. Et du coup, ils vont se montrer sur leur meilleur jour, ils vont, tu vois, atténuer certains traits de leur caractère parce que l'autre personne n'aime pas forcément ça. Et
Non.
du coup, là, ça va coller. Et après, ben, forcément, le naturel revient au galop. Et quand tu sens que l'autre est un peu acquis, tu te lâches plus. Et c'est là que souvent il y a des désillusions et tu dis, purée, mais c'est pas la même personne que j'ai rencontrée au début.
Ouais, c'est une
Alors
cata.
que, en fait, les gens, ils devraient juste se montrer comme ils sont, tu vois, faire des blagues pourries s'ils aiment faire des blagues pourries, faire des activités bizarres s'ils aiment les faire, tu vois, et pas avoir peur d'être jugé parce que après, tu t'embarques dans une histoire où tu te ressembles pas et l'autre, il a pas. L'autre, il est tombé amoureux de la fausse personne que t'étais, tu vois.
Ouais, donc toi, tu te mets dans un... T'es mal parce que tu joues un rôle et la personne, quand elle voit la vérité, elle fait non.
Ouais, c'est ça, bah c'est ça.
Ouais, il y en a, ils y vont cash. Peut-être des fois trop cash dans ce qu'ils sont, mais c'est mieux en fait, parce que moi, tu sais qui t'as en face de toi.
Et bah c'est ça, exactement.
C'est pour ça que aussi, je pense, beaucoup parler par téléphone, ça n'aide pas. Faut se rencontrer rapidement.
Ouais, c'est important. C'est important d'avoir ouais, d'avoir le face-à-face, le physique, les expressions de visage, les petits tics.
Ouais, le non-verbal.
Ouais, voilà, le non-verbal, ouais.
Qui est quand même le plus gros de toute une conversation, en fait. Les mots,
Ouais.
je crois que c'est 5%,
Oui,
7%.
ouais, voilà, j'allais dire, je crois que le non-verbal, c'est 95% ou quelque chose comme ça.
Mais après, c'est, je sais que c'est... ça, c'était Yann Piette qui avait dit, qui est aussi un coach love sur YouTube. Oui,
Ouais.
j'aime bien regarder leurs conseils. Oui, ne me
Ah
jugez
oui,
pas.
moi aussi, je regarde, hein.
Mais c'est tellement pertinent. Et en plus, c'est un mec, tu vois, c'est...
Ouais.
C'est ça que j'aime bien avoir des potes mecs et leur demander, tu vois, des fois, ce qu'ils pensent et tout. C'est trop marrant d'avoir leur vraie version parce que nous, les nanas, on pense d'une certaine façon et eux, ils tapent plus dans le mille parce qu'ils savent, ils
Bah
connaissent leur
oui.
langage l'un
Ouais.
d'autre. Et ils disaient que, je crois que c'est 55% de langage non verbal, après, c'est ce que tu dis et après, c'est les mots.
Ok,
Donc,
ouais.
ouais, je suis pas sûre, mais genre, je me dis, ouais, donc ça fait que si tu parles par message, t'as juste 5%, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Donc, c'est normal que des fois, tu vois les personnes, je pense que ça s'est arrivé à tout le monde, ça se passe super bien par texto, et quand tu vois la personne, tu fais, oh my
Ouais,
god,
ouais.
oh mon dieu. Et ça, c'est le pire des trucs qui peut arriver, je trouve. C'est une sensation de malaise, et tu te dis, faut que je parte. Genre, faut que je trouve une
Oui.
excuse. Non, mais en fait, tu parles à la personne et au fond de toi, tu fais, faut que je me casse. Faut que j'ai une
Ouais.
excuse. Donc, ouais, quand tu parles, là, toutes les personnes qui ont pas. Je sais qu'il y a eu plein de couples qui se sont faits pendant le confinement.
Ouais.
Tu parles pendant un mois, tu te fais t'essaies de pas te faire trop de projections. Ça se passe bien. Tu fais des visios si ça va, tout le monde a du réseau parce que le trois quarts est à la campagne. Et quand tu arrives au bout des 8 semaines, tu crois que la personne, elle ne te correspond pas. Oh là 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 là. Tu dis quoi? Merci l'univers. Au moins, grâce à cette personne, mon confinement a été moins compliqué. Mais chienne de vie, quoi. Non, horrible. Moi
Ouais,
non.
bah ça, de toute façon, ça fait partie du jeu de la séduction et de la drague, hein. Tu tombes pas toujours sur les bons numéros pour toi.
Ouais, c'est ouais. Bon, donc des fois, il faut accueillir le truc et Inch'Allah. Mais
C'est ça.
il y a aussi. Ouais, juste parlons du confinement. On part là dans des sujets, mais moi, ça me passionne l'histoire de couple, etc. Hein. Tu sais qu'il n'y a qu'un quart des personnes qui ont eu des relations sexuelles pendant des... Non, un quart des personnes en couple, bien sûr, qui ont eu des relations sexuelles pendant le confinement. Mais il y en a plein qui sont en mode on va se séparer. On n'est pas d'accord que le confinement, ça a été le high level pour savoir si ton couple il était solide ou pas.
Ouais, on est d'accord.
Genre...
On est d'accord. Parce que, en fait, c'est là que tu vois vraiment comment les deux personnes, elles se comportent l'une envers l'autre et ce qu'elles sont capables de communiquer et les concessions qu'elles sont capables de faire. Et c'est vrai que c'est plus dur d'être un couple qui est collé et surtout enfermé pendant 2 mois. Qu'un couple où ben, tu peux sortir, tu peux faire des activités marrantes, tu peux voir tes potes. Et du coup, c'est plus facile, entre guillemets.
Ouais, t'as des trucs à raconter. Parce qu'à un moment, t'as plus rien à te raconter.
C'est pour ça. Et après, c'est ben, justement la manière, comment chacun des deux partenaires gère ça et comment est-ce que les deux font des efforts pour quand même essayer d'apporter du fun et de la nouveauté dans la relation.
Vas-y, du fun pendant 8 semaines, enfermé chez toi.
Bon, je sais pas, tu peux franchement, tu peux faire plein de trucs, hein. Tu fais, je sais pas, de l'acro-yoga là, tu fais de la peinture sur corps,
Ah ouais, c'est pas con.
vous refaites la déco, vous, je sais pas, vous faites une cabane dans le salon.
Oh, tu aurais dû donner des conseils pour tous les couples qui sont au bord de la crise, tu vois, et qui savent plus quoi faire, à part poncer Netflix pendant 4 heures. Enfin, 4 heures.
Ouais, ça c'est généralement, c'est pas trop une activité qui rapproche ça, mais.
Ouais, ou il y en a qui prenaient tellement pas soin d'eux, qui ont
Ouais.
mangé Ah, oh, qui sont sortis de là, mais avec pas 2,5 kg de plus, mais genre le double ou le triple. Je pense que le
Ouais.
confinement a fait du mal, alors que tout le monde disait, non, mais vous allez voir, dans 9 mois, il y aura plein de bébés. Moi, je pense qu'il y aura plutôt plein de divorces, mais...
Non, en fait, comme dit, ça, enfin, ça a été vraiment quitte ou double, tu vois. C'est soit ça a consolidé les couples, soit ça les a fait éclater.
Est-ce que tu as un dernier conseil à nous donner pour gérer bien notre couple?
En tant qu'entrepreneur,
Non, tant que tout, hein, tant que tout, tu sais quoi, pfou, tous les gars.
ben, toujours vérifier que qu'il y a toujours une compatibilité. Donc, les mêmes envies, les mêmes projets, la même vision de comment ça doit se dérouler dans un couple. Et communiquer, hein. Juste parler en fait. Et oser se montrer vulnérable, oser dire ce qu'on a envie, oser dire ce qui nous plaît pas. Voilà, c'est déjà, ce serait déjà, enfin, ça aiderait déjà beaucoup, beaucoup de couples juste de mettre en place ça.
Ouais, et éviter d'être dans la dépendance quand même affective, que ce soit homme ou femme, quand même, ça c'est un... Non mais c'est le sujet numéro un, genre je suis
Ouais,
désolée.
ben, en fait, ouais, ce qui est super important, c'est que chacun des partenaires, comment dire, on devrait tous, en fait, sur cette planète, faire un travail sur nous, tu vois, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a tel ou tel comportement, pourquoi est-ce qu'on répète ce schéma-là, pourquoi est-ce qu'en couple, on a envie de ci ou on a envie de ça, et se rendre compte que notre manière à nous d'être en couple, elle est directement liée à notre manière de se percevoir, tu vois, et à notre estime de soi au final.
Ouais, de pas chercher relation et relation aussi pour combler ça ou
Ouais.
pour esquiver cette recherche et le célibat, tu
Exactement. Ça, c'est la pire des choses à faire.
Ouais, mais on l'a tous fait, je pense.
Bah oui. Bah, en fait, c'est, tu vois, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend et c'est pas quelque chose dont on parle couramment. Donc, tant que t'es pas confronté à de gros gros problèmes liés à ta dépendance ou que y a pas, je sais pas, tu tombes pas sur un article qui parle de ça, ben tu sais pas en fait.
Ouais, mais toi, comment ça t'est venu de d'aller dans la dépendance affective? Enfin non, de d'aider des gens sur la dépendance affective.
Ben en fait moi j'étais comme ça avant et quand tu prends conscience que cette chose existe. Bah, tu te rends compte qu'il y a trop, surtout les femmes, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont comme ça, dépendantes, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, qui pensent qu'elles ont absolument besoin de leur partenaire pour vivre. Et en fait, tu dis, c'est pas possible parce qu'au fond d'elles-mêmes, elles ne sont pas heureuses. Et je me suis dit que, enfin, il y a tellement de bonnes personnes sur Terre qui sont coincées dans cette dépendance et qui, du coup, s'estiment pas, ne s'aiment pas. Et voilà, bah j'aimerais faire en sorte que les gens ils s'aiment plus et ils se respectent plus.
Et toi, comment tu t'en es sorti?
ben, moi, le fait de me rendre compte, déjà, ça a pas mal joué. Souvent, rien que le fait de mettre un mot dessus et de comprendre pourquoi est-ce qu'on agit comme ci ou comme ça aide pas mal. Et après, c'est se recentrer sur soi et trouver ce qui nous fait vibrer et se rendre compte qu'on est une belle personne et qu'on n'a pas besoin d'une moitié. 1 et 1, 1 plus 1, ça fait 3.
Ouais.
Donc c'est t'as le premier partenaire, le deuxième partenaire et le couple. 3 personnes.
Et c'est pas l'enfant.
Non.
C'est vrai qu'il y en a qui misent 1 égale 3. Non, c'est pas la même chose.
Ouais, c'est un concept différent.
Parce que ça, faut pas le mettre comme ça n'importe où sur Facebook, etc. Parce que les gens ils vont se dire, ah, mais vous allez voir un enfant? Non. On a décidé d'être un couple, comment dire, sain. Sain, pareil.
Ouais.
Ben, merci beaucoup d'avoir participé à cette... C'est plutôt une grande discussion autour des relations de couple que vraiment une interview.
Ouais, bah écoute, merci à toi de m'avoir invité, hein. J'ai trouvé que c'était un échange très intéressant et j'espère que ça pourra aider tes auditeurs.
Ouais, je mettrai ton lien Facebook. T'as un site?
Ouais, j'ai un site internet et plutôt Instagram parce que Facebook, je suis.
Parce que toi, t'as aussi ta chaîne sur YouTube.
Ouais.
Ouais, peut-être que toi, t'as un meilleur marché parce qu'il y a... y a pas beaucoup de coach love, de love coach, je veux dire.
Ben, ça commence quand même à vachement se développer et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de gros, gros coachs. Mais après, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, tu vois, et que les gens, ils
Ouais.
vont te suivre pour ta personnalité. Et des gens comme toi qui osent dire à voix haute vraiment ce qu'ils pensent, il n'y en a pas beaucoup. Donc il y a aussi un marché pour ça.
Ouais, des fois je me dis j'aurais fermé ma gueule, tu vois, mais non, j'assume.
Ouais.
Podcast politiquement incorrect.
Bah,
C'est ma vie.
l'essentiel, c'est que ça te plaise et que ça te corresponde.
Mais en fait, c'est soit tu deviens Mickey. Ça, j'ai entendu cette métaphore. Je me suis dit, ah ouais, en fait, Mickey, il dit rien. Il n'a pas de singularité. Il
Ah,
dit
c'est
oui
vrai.
à tout. Et en fait,
Ouais.
c'est celui-là qui rapporte le moins à Disney, paradoxalement, alors que c'est l'emblème
Ouais.
Disney. Donc, faut pas être un Mickey et faut dire les choses, même les choses qui ne font pas plaisir, parce que t'es pas là pour dire des choses qui font plaisir. T'es là pour dire des choses vraies et
Ouais.
faut mieux être entier, tu vois, que être aimé par tout le monde.
Ouais, donc, toujours, hein. Toujours, hein.
Il y a toujours des gens qui voudront être aimés, tu vois, mais ça, c'est. On est d'accord que c'est une petite blessure.
Oui, souvent. Non, non, c'est clair. Et surtout, je dis parfois en coaching que être aimé par tout le monde, c'est être aimé par personne. Parce que s'il y a vraiment tout le monde qui t'aime, c'est qu'au final, toi, t'assumes pas toujours qui t'es et tu t'adaptes plus en fonction des gens et que du coup, toi, tu t'oublies toi-même.
Mais après, il y a aussi des coachings pour devenir la personne qu'on aimerait être et la personne voilà, pour apprendre à s'aimer et être OK à se dire, ouais, là, je suis d'accord qu'on peut m'aimer parce que je suis la personne que je veux être.
C'est ça.
Parce qu'il y a plein de personnes qui. C'est peut-être débile, mais j'ai toujours cette phrase, est-ce que tu te marierais avec toi-même?
Ouais, bah ouais,
Et
super important.
il y a des gens, ils se disent non.
Ouais.
Et tu fais, attends, toi, tu pourrais pas te mettre avec toi-même. C'est pas de l'égocentrisme. Mais comment tu veux que quelqu'un se mette avec toi si déjà tu t'aimes pas ou tu trouves plein de défauts?
C'est ça. C'est ça parce que en fait, ça va. Si toi tu t'aimes pas, même s'il y a quelqu'un qui t'aime, ben tu auras forcément des comportements qui vont être nocifs pour le couple.
Mais ouais.
Et c'est pour ça que parfois ça marche pas parce que OK, t'aimes l'autre et l'autre il t'aime, mais il y en a un des deux qui s'aime pas soi-même et ça va tout faire péter quoi.
Ouais, voilà. Et après, tu fais quoi? T'es dans un petit syndrome qui s'appelle la dépendance affective et tu demandes à l'autre. C'est un truc de fou, ça revient à chaque fois, tu vois. Et tu
Ouais.
demandes à l'autre personne de combler.
C'est ça. Le manque et le vide.
Voilà. Et
Ouais.
l'amour qui n'existe pas en toi.
Exactement. Et ça, c'est pas possible.
Alors maintenant, vous restez célibataire un petit peu, vous apprenez à vous aimer, vous prenez un coaching, vous regardez des vidéos sur YouTube, vous parlez à Mel, je m'en fous, tu vois. Faites un truc et vous arrêtez de déléguer le manque d'amour que vous n'avez pas pour vous. Et quand vous pourriez vous marier avec vous-même, lancez-vous dans une relation.
Très,
Je trouve
très
que
bien dit.
c'est un bon conseil. J'ai mis du temps avant de comprendre ce conseil. Donc je comprends que tout le monde ne l'ait pas encore imprimé.
Bien sûr, mais c'était pareil pour moi. Hein. Et comme on disait, c'est quelque chose on n'est pas au courant.
Ouais, tout ce qui est intelligence émotionnelle, etc., on ne nous l'apprend
Ouais,
pas à
c'est ça.
l'école.
Et même qu'est-ce qui est tolérable ou non dans une relation. Parce que tu vois, au final, quand tu te mets en couple et que tu as un problème, bah, tu vas avoir ta famille, tes amis, etc. Mais eux-mêmes, leur couple, c'est pas forcément l'image d'un couple sain et heureux. Donc ok, tu vas avoir des conseils, mais c'est peut-être pas les bons conseils au final.
Ouais, c'est ça. Et après, il y a des couples qui font genre, ils sont bien, mais derrière, c'est une catastrophe.
C'est ça aussi, ouais.
Donc, faut mieux aller chez un professionnel et quelqu'un de neutre, parce
Toujours, hein.
il parlera pas forcément avec son regard personnel, mais vraiment un regard neutre.
Ouais, c'est ça, d'extérieur, ouais.
Parce que les gens, quand ils te conseillent des trucs, ils disent, ah, moi, à ta place, nanana. Et en fait, c'est comme quand tu montes une entreprise. C'est même déconseillé d'aller demander des trucs à des entrepreneurs, à part les basiques, genre comment tu renvoies quelqu'un, comment est-ce que tu as des idées, comment je recrute, en fait, vraiment les trucs très simples, parce que le problème, c'est que les gens, ils parlent tout le temps avec leur vision à eux,
C'est
avec
ça.
leur passif.
Leurs expériences.
Voilà.
Ouais.
Il y a des boîtes, tu demandes à un entrepreneur, je sais pas quoi, qui a monté sa boîte, toi tu montes une start-up ou tu es freelance, déjà on ne sera pas du tout sur le même langage, pas la même base.
C'est
Donc ça
ça.
fait que ça pourrait être un bon conseil pour quelqu'un, mais pour toi ça sera nul, tu vas le suivre et tu vas te planter.
C'est exactement ça. Mais je pense que de toute manière, quand tu veux faire quelque chose, les deux catégories de personnes vers lesquelles il faut que tu te tournes, c'est soit quelqu'un qui est qui a déjà fait ce que tu as fait et qui est au-dessus de toi, soit tes prospects ou tes clients potentiels, ou tes vrais clients d'ailleurs, qui peuvent te dire ben moi j'ai besoin de ci, moi j'ai besoin de ça. Mais c'est pas ta tante Roberta qui va te donner des conseils sur ta boîte, quoi.
J'aime bien la métaphore qui dit aussi que nous sommes, bon alors là c'est un peu trash, mais nous sommes des entreprises. Et même, je parlais avec un pote qui a une start-up qui disait, ouais, un couple c'est même une entreprise en fait. Parce que je disais, ouais, un couple ça a une vision, des valeurs et tout, tu vois, des objectifs. Et il me disait, non mais t'as vu, un couple c'est comme une entreprise.
Ouais, c'est vrai d'un côté, c'est vrai. Faut
Voilà.
des objectifs, des projets, une vision commune, les mêmes valeurs. Faut s'investir pour que le
Ouais,
couple y dure.
nous
Ouais, c'est vrai
sommes
qu'on peut faire l'analogie.
on est un peu comme des entreprises chacun, c'est-à-dire qu'on doit apprendre, qu'on doit évoluer
C'est ça.
aussi.
Ouais, exactement.
Sinon, on est dans le mur.
Souvent, ouais, malheureusement.
Faut juste savoir quel type d'entreprise on a envie d'être, une entreprise prospère ou un job bullshit, tu vois. Non, mais c'est ça, hein, genre on parlait de séduction par le marketing, tu vois. Il y avait les mêmes codes dans le marketing que dans la séduction. J'étais en mode.
Oui.
C'est hardcore là, quand même, comme principe.
Ben, d'ailleurs, je crois qu'il y a vraiment des gens qui jouent là-dessus, des coachs ou des conseillers qui disent que en fait, un entretien d'embauche, c'est comme un premier rendez-vous
Mais ouais.
avec ton crush, quoi.
J'en ai parlé avec Fred, qui est
Ouais.
agent immobilier. Et je disais que à tout, je suis dans la séduction comme avec un crush. Si je le fais pas rire, c'est mort. Tu vois. Et je te jure que ça marche. Et ça fait que, bon, il claque des barres, etc. Mais tu vois, en fait, rapide, tu brises la glace, en fait, si tu arrives à être un peu marrant.
Bah c'est ça. C'est beaucoup plus c'est un climat professionnel qui est beaucoup plus agréable.
Et grâce à ça, j'ai eu plus de retours positifs sur mes jobs, enfin sur des jobs que je voulais, des entretiens d'embauche, que quand j'étais stressée en
Ouais.
noir et blanc, tu vois, quand on te coach pour tes premiers entretiens d'embauche, genre à Pôle emploi, etc., et qu'ils sont à côté de la plaque, et c'est un enfer, ils comprennent, ils sont, ouais, pas du tout dedans en fait. Faut mieux regarder des vidéos sur YouTube pour savoir comment. Non,
Il y
mais
a
c'est une.
beaucoup de choses intéressantes sur YouTube.
Ouais, c'est une source incroyable d'inspiration. Il y a tellement de. Juste les TEDx, TED, je n'arrive pas à le prononcer.
TEDx.
TEDx, pardon. Il y a tellement de personnes hyper connues qui ont des cerveaux incroyables, qui ont
Ouais.
révolutionné le monde actuel, qui parlent juste sur une plateforme gratuite, pas se prendre la tête. Il y a des sources d'inspiration incroyables. Et donc, merci Mel, vraiment, d'avoir participé et d'avoir accepté, d'avoir pris du temps.
Avec plaisir. Merci à toi. Franchement, c'était un très très bel échange, très instructif.
Donc, je vous dis à bientôt dans un prochain article du blog et dans un prochain podcast. Je vous fais des bisous.